Clôture le week-end dernier du deuxième conclave du rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Parmi les résolutions de ce conclave, cette plateforme politique demande au président Kabila de libérer sans délai le processus électoral et la mise en œuvre intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. Dans le cas contraire, elle entend, dit-elle, entreprendre avec le peuple congolais des manifestations pacifiques conformément à la Constitution. Elle exige aussi à la CENI de convoquer l'électorat au plus tard le 30 septembre 2017. Comment analyser les résolutions issues de ce conclave? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Dieudonné Moïse. Bonsoir, monsieur Dieudonné Moïse.
Bonsoir, monsieur Alain.
Vous êtes cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain.
Vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est Christian Mwando, député national de l'opposition. Il est président du parti politique UNADEF et vice-président de la plateforme G7. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les forces politiques et sociales de la RDC acquises au changement, réunies au sein du rassemblement, ont donné samedi dernier une nouvelle feuille de route des activités politiques pour les 5 derniers mois de 2017. C'était en marge de la cérémonie de clôture du deuxième conclave de 2 jours de ce regroupement au siège de l'UDPS. Une grande campagne de mobilisation et sensibilisation sera notamment organisée à travers tout le pays. Suivons un extrait du rapport de ce deuxième conclave avec François Mwamba au micro de Billy Ivan Lutumba.
En présence de Pierre Lumbi, président du Conseil des sages et de tous les autres cadres du rassemblement, devant un millier de sympathisants réunis au sein et devant le siège de l'UDPS, le rapporteur a passé en revue la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays.
Sur le plan politique, la tension est vive. Notre pays vit actuellement sous le régime d'un coup d'État constitutionnel à peine voilé. Les mesures de décrispation politique n'ont été appliquées qu'à compte-goutte. Au plan sécuritaire, force est de constater que le feu s'allume dans certains coins névralgiques du pays, comme dans une stratégie d'un chaos programmé pour empêcher l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales en 2017.
Dès leur analyse, les conclavistes ont conclu, à l'instar des évêques catholiques, que le pays va très mal.
La monnaie nationale, le franc congolais, s'est fortement déprécié sur les marchés de change. Les prix des denrées alimentaires, du carburant, ont augmenté d'environ 25%. Les salaires des agents et fonctionnaires de l'État sont devenus plus qu'insignifiants. Congolaises et Congolais, notre pays va très mal.
Au vu de leur analyse de l'état de la nation, les délégués au conclave ont programmé une série de manifestations à partir du 8 août, lesquelles sont contenues dans une feuille de route qu'ils ont présentée.
Merci Billy Ivan Lutumba. Dieudonné Moïse, vous êtes cadre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. Certainement que vous avez suivi cette actualité. Comment vous avez analysé les différentes résolutions issues de ce conclave?
Écoutez, monsieur Alain, il était d'ailleurs plus indiqué que un des conclavistes soit dans ces studios pour nous expliquer d'ailleurs les tenants et les aboutissants des conclusions de l'ère conclave, mais malheureusement il y a une absence que l'on constate. Mais vous me demandez, moi, de pouvoir dire quelque chose par rapport aux résolutions de ce conclave. Il faut avouer que j'ai accueilli ces résolutions avec beaucoup d'amertume.
Pourquoi?
Et d'ailleurs, nous sommes dans la thématique de cette émission lorsque le RASOP limité confirme que le processus doit être libéré par Joseph Kabila. Je crois qu'il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. C'est celle de savoir, est-ce que ce processus est pris en otage par Joseph Kabila? Je crois que c'est ça la question fondamentale et à laquelle nous tous nous devons répondre. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent que réellement ce processus est pris en otage et n'est pas libéré par Joseph Kabila et qu'il faut que les conclavistes demandent sa libération? Je crois que la réponse est claire, c'est la négative. Donc le processus est en train d'évoluer. Aujourd'hui où nous parlons, nous sommes à plus de 35 millions d'enrôlés comme électeurs potentiels et que par rapport à 2005, nous étions à 25 millions à peu près. En 2011, nous étions à 31 millions à peu près. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 35 millions.
Avec un président,
rapport à 41 millions qui étaient projetés comme prévision.
Avec un président du CNSA désigné, mais presque boudé par tous.
Oui, mais que voulez-vous, puisque le décor est celui-là. Le décor est planté tel que tout celui qui doit être désigné en dehors de personnes qui sont attendues au RASO Pélimété doivent être boudées. C'est ça le problème, simplement. Nous sommes à un niveau où, monsieur Alain, beaucoup de gens ne sont pas préoccupés par la situation du pays. Nombreux trouvent l'occasion pour chercher à atteindre des objectifs, à occuper des postes, et ils oublient que lorsque nous créons l'instabilité politique dans ce pays, effectivement, nous amenons le pays très loin. Je viens d'entendre, on veut dire qu'il y a un coup d'État. Joseph Kabila n'est pas dans un coup d'État. Je crois, quand vous lisez l'accord, j'ai l'exemplaire avec moi. Toutes les parties, y compris RASOP Limité, ont accepté que Joseph Kabila reste au pouvoir pendant cette période transitoire. Et où est-ce qu'il a fait un coup d'État? Cet accord est signé par les membres du RASOP. Donc je crois que nous sommes dans une
Quelle
situation...
RASOP?
C'est le RASOP Limité. Je voulais parler du RASOP radicalisé Limité. Puisque nous parlons du conclave, le conclave concerne le RASOP Limité. Et je n'ai pas vu les autres RASOP là-dedans. Donc, c'est dire que nous sommes dans une situation où nous devons comprendre que le processus marche. On n'a pas besoin d'appeler à ce qu'on libère ce processus. Et le processus commence par quelque part. Quelque part, c'est où? C'est par l'enrôlement des électeurs. Et au moment où nous parlons, les électeurs sont en train d'être enrôlés. Si j'ai fait mes petits calculs sur base des prévisions, nous n'attendons que les 6 millions, quelque chose comme 6 millions. Et demain ou après-demain, on va ouvrir l'enrôlement dans les deux provinces qui posaient problème en termes de sécurité. Je parle du Kasaï, je parle de la province du Kasaï central, avec les deux territoires qui restaient. Je crois que c'est Kamiji avec Lui-Lou. Donc nous n'avons pas tellement de problèmes en termes de vouloir qu'on libère le processus. Le problème est ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Pourquoi? Puisque le jour où il clôturait leur conclave, ça coïncidait avec le jour où il y avait la mise en place du CNSA. Et pour eux, que ça soit à la tête du gouvernement de la République, que ça soit à la tête du CNSA, je parle du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, ils ont leur candidat qu'ils tiennent à voir à tout prix là-bas. Et du moment que leur candidat ne se positionne pas à ce poste déjà escompté, pour eux, le processus n'a pas encore commencé. Je crois que là, nous sommes dans une situation de quiproquo et nous ne pouvons pas nous entendre. Je crois que nos amis du RASOP Limité doivent comprendre que l'intérêt de la République est au-dessus de tout.
Alors, Dieudonné Moïse, à la page 8 de la déclaration finale du conclave du RASOP, il est dit ceci: le rassemblement dénonce le cynisme et l'hypocrisie de Joseph Kabila et de sa famille politique qui prétendent appliquer l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain, alors que par ailleurs il s'emploie chaque jour à le pervertir et à le vider de sa substance.
C'est un problème de compréhension. Je crois que c'est ce que je venais de dire. Qu'est-ce qu'on entend par appliquer l'accord? Puisque ce qui s'est fait là, si vous lisez l'accord du début jusqu'à la fin, le problème fondamental de cet accord ou de ces discussions au centre interdiocésain, c'est baliser le chemin pour les élections. Et pour commencer les élections, il faut avoir un fichier électoral. Tout le monde dans ce rapport, d'ailleurs, vous pouvez le lire, tout le monde s'est accordé pour qu'il puisse y avoir la refonte du fichier électoral. Tout le monde. Et l'accord est signé par tout le monde. Et c'est ce qui s'est fait. Lorsqu'on dit qu'il y a cynisme, lorsqu'on dit qu'on est en train de distraire l'opinion, on n'applique pas l'accord. Les institutions prévues dans l'accord pendant cette période préélectorale et électorale, notamment le gouvernement d'Union nationale. Le gouvernement d'Union nationale est là. Nous attendions le CNSA. Aujourd'hui, le CNSA est là. Mais qu'est-ce qu'on dit encore? Qu'est-ce qui reste à faire? Moi, je voudrais qu'on dise que voilà telle étape que nous attendions qui n'est pas encore là. Je crois que nous devrions peut-être à ce moment-là faire une bonne discussion.
Alors, en parlant de l'insécurité, il est encore dit dans ce rapport final, à moins que cela ne soit qu'une manœuvre machiavélique que Joseph Kabila entretient pour justifier à terme l'instauration d'un état d'urgence dans le pays qui lui permettrait de continuer à bloquer l'organisation des élections.
Non, je crois que la question de l'insécurité, c'est une question fondamentale. Il ne faut pas la politiser, il faut la saisir de manière convenable. Il est malheureux que moi je me mette à expliquer leurs propres textes, puisque dans ces studios, il y a
mais
absence.
Mais ils vous accusent d'entretenir l'insécurité.
Oui, mais il fallait d'abord, selon les normes de l'émission, il fallait qu'ils expliquent à l'opinion qu'est-ce qu'ils veulent dire par ces phrases.
Alors, répondez
mais malheureusement,
à ce qui
ils,
vous
sont
concerne.
Absents, répondez ils sont à... absents, je vais expliquer. Donc, moi, je pense que la question de l'insécurité n'est pas à politiser. Il est vrai que ce qui arrive, surtout à l'intérieur du pays, je parle du milieu du pays, les deux Kasaï, y compris la province de Lomami, ce qui arrive est triste. Il s'agit réellement d'une insécurité que nous ne devons pas politiser. Nous avons perdu les nôtres, nous avons perdu les hommes en uniforme, et jusqu'aujourd'hui, on parle encore de quelques poches de résistance. Je crois que ça ne peut pas être politisé. C'est un élément qui n'a pas été pris en compte lors du dialogue. Et même lorsque le délai du 31 décembre avait été pris en compte à l'article, je crois que c'est le point 4 et 2, jusque-là, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir le phénomène Kamouina-Nsapu, par exemple. Mais c'est un phénomène qui perturbe le déroulement du processus et nous devons tous regretter ce phénomène. Ce n'est pas un phénomène qu'il faut mettre nécessairement sur le dos de quelqu'un. J'ai toujours entendu les gens dire que c'est le pouvoir. Je suis en train de me demander, le pouvoir tirerait quoi comme profit en instaurant l'insécurité Merci. Dans le Kasaï. Je crois que c'est un faux fouillant et c'est une lecture biaisée.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Avant de prendre la parole, professeur, la réalisation me signale qu'elle ne parvient pas à mettre la main sur l'honorable Christian Mwando. Professeur, vous, comment vous analysez les différentes résolutions issues de ce conclave?
J'en tire quatre leçons. La première, c'est que le conclave consacre une véritable rupture avec la majorité. Quand vous regardez les actions qui sont entreprises, c'est des actions qui ne laissent pas la place à une négociation. Et donc, au travers de cela, vous avez pratiquement posé les décors de, en fait, l'échec du dialogue politique. Regardez le dialogue lui-même, ce qu'il a produit comme résultat. Le dialogue a-t-il renforcé les institutions ou le dialogue les a affaiblis? Quelle est la position aujourd'hui du gouvernement? Le chef de l'État, eux-mêmes disent qu'ils vont le contester. C'est-à-dire qu'ils vont le mettre dans une situation d'affaiblissement. Tant il est vrai que la question même de la survie du chef de l'État après la fin du mandat constitutionnel a posé problème et a affaibli l'institution président de la République. Donc, vous avez là un décor qui est planté et qui montre bien qu'il y a véritablement une véritable rupture entre l'opposition, même si on l'appelle RASOP limité, et la majorité. Et la deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est qu'en fait, ce conclave voudrait aussi sortir l'opposition de son immobilisme. Qu'est-ce que l'on a remarqué? Après le dialogue, eh bien, l'opposition semblait complètement inerte, et surtout après les décès de Étienne Tshisekedi. On n'a pas vu l'opposition prendre des initiatives allant dans les sens de revendications politiques ou allant donc dans les sens d'une mobilisation de ces combattants et de ces militants. Et donc, quand vous regardez les actions qui sont proposées aujourd'hui, vous avez véritablement une leçon à tirer, c'est que l'opposition sort de son immobilisme, voudrait maintenant entamer des actions dans le sens d'une réorganisation de la contestation. Et la troisième leçon, c'est que l'opposition pose les bases d'une nouvelle écologie politique. En fait, cette écologie, c'est celle de la réorganisation de la contestation politique. Et vous allez voir ici qu'il y a plusieurs actions qu'il propose, des actions soit de mobilisation, des actions collectives, des actions qui tendent à rassembler soit les militants, mais aussi à conscientiser. Donc, quand vous lisez tout le document, vous sentez qu'il y a là plusieurs actions qui sont proposées et qui sont mises sous la table, qui vont véritablement consacrer la réorganisation de la contestation par l'opposition politique. Et il s'agit ici d'une contestation qui ne ressemble pas à la contestation qu'on observe dans d'autres pays africains, parce que dans la plupart des cas, ces derniers temps, quand il y a des contestations en Afrique, c'est des contestations électorales. Donc, c'est des contestations pour contester, récuser les résultats des élections. Mais chez nous, on a l'impression qu'on est véritablement dans une sorte de recul. Il ne s'agit plus d'une contestation sur le processus électoral, sur le résultat, mais de contestation sur l'environnement politique, sur, si vous voulez, le contexte qui devait entourer l'organisation des élections. C'est des revendications d'organisation des élections. On n'est plus là dans des revendications de résultats, mais des revendications d'organisation des élections. Et donc, ce genre de revendications différencie un tout petit peu la contestation qu'on constate en RDC de celle que l'on constate dans d'autres pays africains. Et la dernière leçon que je dois tirer, c'est qu'en fait, les résolutions du conclave contrarient un peu la dernière prise de position de Félix Tshisekedi, qui avait étonné tout le monde en ceci qu'il préconisait une transition, mais sans Kabila, après décembre 2000.
Alors, professeur, quand vous dites, par exemple, que ces résolutions permettent une certaine réorganisation de l'opposition, étions-nous en face d'une opposition à bout de souffle?
À mon avis, à bout de souffle, je ne le dirais pas, mais probablement que...
Perturbé.
On a constaté l'immobilisme. L'immobilisme. C'est comme si toutes les énergies étaient jetées sur le dialogue. Et donc, après le dialogue, on a véritablement constaté qu'il y avait... l'opposition avait perdu ses repères. Et donc, elle est en train de se reconstituer aujourd'hui. Mais les actions qui sont proposées sont des actions d'envergure. Et toute la question aujourd'hui, c'est quelles sont les conséquences d'une telle contestation. Et quand on connaît le contexte et le sens du politique en RDC, il va s'en suivre certainement des scènes de violence.
Alors, professeur, à la première leçon, vous avez évoqué, vous avez dit que c'était une véritable rupture avec la majorité présidentielle. Et donc, selon vous, il n'y a plus aucune possibilité d'un quelconque dialogue.
Alors, la tonalité qui a été utilisée, les ultimatums qui ont été lancés, les actions proposées ne laissent pas la place, de mon point de vue, pour le moment, à une négociation. Et eux-mêmes disent qu'il faut au 30 septembre que le corps électoral soit convoqué. Alors, finalement, vous avez les gens de la majorité qui vous disent qu'ils veulent des élections, ceux de l'opposition vous disent nous voulons les élections, finalement, qui ne veut pas des élections? C'est là toute la question que l'on se pose. Mais je crois qu'il faut qu'on aille vers les élections. C'est, de mon point de vue, continuer à négocier ne résoudra pas le problème. Le dialogue, finalement, ceux qui parlent du dialogue aujourd'hui comme étant la seule voie possible, eh bien, cette rhétorique aujourd'hui ne colle plus à la réalité. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut aller aux élections. Il faut redonner le pouvoir au peuple. Parce qu'il faut dire qu'au travers de dialogue, on a pu négocier dans l'informel, laissant le peuple congolais au bord de la route. Non, les négociations informelles, il faut y mettre fin. Il faut redonner le pouvoir à la population.
Merci.
C'est celui qui est, si vous voulez, le souverain primaire.
Merci, professeur. La réalisation me signale qu'en lieu et place de l'honorable Christian Mwando, nous avons plutôt l'honorable François Mwamba. Bonsoir, honorable, vous êtes en ligne?
Je suis en ligne, bonsoir.
Merci beaucoup. Commencez par nous dire, honorable, quel était l'objet de votre conclave?
Non, c'est un conclave. Vous avez bien vu ce qui s'est passé de positif, extrêmement positif, le 31 décembre 2016. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé de beaucoup moins important, de beaucoup moins intéressant. D'abord pour nous-mêmes, la perte d'Étienne Tshisekedi, notre patriarche, notre patrimonier, au mois de février. Et puis ensuite, tous les tricotages, enfin les détricotages, le détricotage de l'accord par le président de la République, Joseph Kabila, et sa famille et politique. Et tout ça donc postulait que nous puissions nous retrouver pour redéfinir une ligne qui permette de revenir aux fondamentaux. Il s'agit en effet non seulement d'aller aux élections, mais aller aux élections libres, transparentes et dans des conditions d'équité entre les uns et les autres. Et cela stipule effectivement que tout ce qui a été mis en place dans l'accord de la Saint-Sylvestre puisse être mis en application d'une manière intégrale, à savoir, si nous voulons des élections, il faut qu'il y ait un gouvernement dont le principal objectif, c'est de les organiser, en tout cas de faciliter la tâche à la CENI. Ça veut dire que l'argent de l'État doit principalement aller, outre les autres priorités, aller à l'organisation de ces élections, toute chose qu'on n'a pas observée depuis 5 ans maintenant. Et ça veut dire aussi que la CENI en question, qui est devenue un petit peu une sorte de caisse de résonance de la présidence de la République, puisse être restructurée et j'allais presque dire mise au pas pour revenir à ses missions qui sont d'organiser les élections et non pas de servir de supplétif à un schéma, quel qu'il soit, qui est pour conséquence que ces élections ne se tiennent pas. Et troisièmement, c'est une question des délais. La Constitution est là. Ces élections devaient avoir lieu au mois de décembre de l'année dernière. C'est du fait de la volonté du président de la République que cela n'a pas eu lieu. Nous avons été à ces négociations pour justement trouver les voies et moyens de faire revenir le président de la République, j'allais presque dire à la raison, pour que les choses non seulement se fassent, mais se fassent d'une manière pacifique. Apparemment, aujourd'hui, il a tout renié, il n'a jamais rien promis, et il a mis... il s'est fabriqué son propre rassemblement, il s'est fabriqué son propre arrangement particulier, et tout ça donc était les sujets que nous avons débattus et qui nous ont amenés aux résolutions que nous avons sorties.
Alors, honorable, dans le document final que vous avez, qui est sorti à l'issue de ce conclave, il est dit quelque part, parmi ces défis, l'un de ceux qui sont prioritaires consiste à obtenir le déblocage en dépit des manœuvres dilatoires de Joseph Kabila, de l'application de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 et l'organisation des élections dans les conditions et délais fixés par le dit accord. Professeur, honorable, le rassemblement a-t-il les moyens de relever ce défi au moment où la clôture de votre conclave va coïncider avec la désignation de Joseph Olenganko et à la tête du CENSA?
Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas du tout les choses. Donc, je parlais tout à l'heure du détricotage de ce qui avait été convenu. Quelles sont les méthodes utilisées par le président de la République, par il y a trois paramètres. La répression,
honorable,
d'accord, insiste sur, je vous dis, je vous réponds, de que ça soit compréhensible.
Il y a des moments où on a du mal à vous capter, si c'est possible de bouger un tout petit peu.
Oui, voilà. Parce que je suis, vous m'avez pris de court, c'est vrai, je suis en train de...
Non, pas du tout. Essayez de bouger un peu si c'est possible, s'il vous plaît.
Est-ce que c'est mieux là?
Non, pas du tout. Voilà. En attendant que la réalisation retrouve l'honorable François Mwamba, honorable Dieudonné Moinzé, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
C'est Benoît Mbang depuis Kananga. Pour moi, comme la démocratie est piétinée en Afrique, précisément en RDC, que les Occidentaux qui se disent démocrates puissent intervenir au nom de la démocratie, pour que ça reste un exemple aux gens qui ne veulent pas de la démocratie. Au fond, le rassemblement doit mettre aussi ses paroles en application en cherchant des méthodes matérielles qui peuvent convaincre et sauver le pays, parce que les gens qui nous dirigent jusqu'à ce jour n'ont pas la foi de respecter l'accord du 31 décembre. Et pourtant, c'est grâce à cet accord que tout s'allume et s'éclaire aujourd'hui. Mais la grâce de cet accord du 31 décembre, on l'a détruit par force.
Honorable Dieudonné Moinzé, il faudrait que la communauté internationale finalement sauve la RDC.
Non, je ne pense pas que nous puissions décevoir les efforts de tous ceux qui ont milité pour l'indépendance de la République. Et Monsieur Benoît Kananga doit savoir que nous sommes un pays souverain et que notre souveraineté est reconnue sur le plan national et international. Et en tant que tel, la question des élections est une question de souveraineté également et que nous devons nous battre pour organiser les élections nous-mêmes. Nous n'allons pas appeler la communauté internationale pour faire cela à notre place. Alors, pour revenir à la rupture évoquée tout à l'heure par le prof Kabamba, je pense que cette rupture est voulue par le Rassemblement. Et aujourd'hui, si nous sommes en contact, c'est par la bonne volonté de la majorité présidentielle. Le prof Kabamba, avec qui j'ai déjà fait beaucoup d'émissions, il va se rappeler que depuis 2015, cette rupture était déjà visible. Elle était toujours visible et personne ne pensait même qu'un jour nous pourrions nous rapprocher. Rappelez-vous de la position de la dynamique de l'opposition qui est aujourd'hui dans ce rassemblement limité. Rappelez-vous de la position des G7 qui aujourd'hui est pratiquement le ténor dans le rassemblement limité. Donc, c'est vous dire que nous avons réellement des personnes qui veulent à tout prix créer la rupture puisqu'ils pensent que le pouvoir peut se prendre autrement, puisque c'est ça l'objectif. Hein, il y a des personnes qui ont compris que le pouvoir ne peut pas être obtenu au travers des urnes et que l'insurrection, par exemple, ou la force peuvent être des voies par lesquelles ils peuvent arriver au pouvoir, ce qui n'est pas logique et ce n'est même pas autorisé dans notre constitution. Donc nous sommes dans une situation où pas l'opposition était dans l'immobilisme, mais je pense que l'opposition était dans une situation attentiste dans ce sens que l'opposition avait eu des promesses au travers de l'accord du 31 décembre 2016 et que l'opposition pensait que ses pions majeurs devaient occuper certains postes. Et aujourd'hui, l'opposition, je parle de l'opposition Rassemblement, se rend compte de plus en plus que les chances s'amenuisent et qu'ils n'ont plus beaucoup de chances d'atteindre ces postes. C'est pour cela qu'ils y reviennent à la charge, pas pour dire qu'ils veulent mobiliser réellement, mais ils y viennent pour un règlement des comptes. Ils pensent, il y a des gens qui pensent, nous échangeons avec beaucoup de gens dans le Rassemblement qui pensent qu'il faut donner des coups à Kabila puisque Kabila ne nous a pas permis de jouir de nos postes lorsque nous étions dans la majorité. Je pense au G7. Il y a des gens qui pensent qu'il faut donner des coups à Kabila puisque Kabila ne nous a pas permis d'atteindre tel poste ou tel autre poste. Je pense cette fois-là à d'autres familles politiques qui sont autour du G7 comme la dynamique de l'opposition et même l'UDPS. Je crois que c'est ce schéma-là. C'est un schéma qui est périlleux, dans ce sens qu'il ne va pas permettre à la République de pouvoir se construire normalement. On parle aujourd'hui des actions à mener. Et les gens lisent l'article 64, mais ils ne lisent pas l'article 65. Qu'est dit l'article 65, Monsieur Alain, avec votre autorisation? Il est dit que tout Congolais est tenu de remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de l'État. J'ai dit bien, tout Congolais est tenu, donc il est obligé. Il s'agit d'une obligation. Il a en outre le devoir de s'acquitter de ses impôts et de ses taxes. Mais lorsqu'on planifie ce genre d'action, on veut amener la République où ? Pour les intérêts tout à fait partisans.
Voilà, nous allons donner la possibilité à l'honorable François Mamba de vous répondre. Honorable, vous êtes en ligne ? Honorable François Mamba ? Voilà, décidément, nous avons quelques soucis avec la ligne de l'honorable. Nous allons plutôt prendre cette réaction pour le professeur Félicien Kabamba. Cette réaction nous vient de la province du Bas-Zouélé.
Pierrot Anouma, depuis Bondo, dans la province du Bas-Zouélé. Le peuple congolais, conscient de son destin, ne croit plus aux acteurs politiques ni aux gens de la société civile. La majorité présidentielle a liquidé le pays. Les rassemblements de l'opposition inactifs sur terrain, avec des actions non planifiées, ni stratégique pour l'avènement des élections, les églises divisées. Face à cette situation sombre, seul le peuple pourra faire basculer les choses.
Professeur.
Alors, il rejoint pratiquement mon point de vue, c'est-à-dire c'était le constat d'un certain immobilisme de l'opposition. Mais je crois qu'il, à travers le conclave, l'opposition a choisi d'être beaucoup plus active sur terrain et de faire entendre sa voix. Et quand vous regardez les actions qui sont préconisées, ainsi que les différents ultimatums, on se dit que là, nous allons sur un cycle de contestation qui sera véritablement permanent. Et ce qui est vrai ici, c'est que le peuple attend que le pouvoir lui soit en fait, qu'il redevienne ce qu'il a été par le passé, c'est-à-dire le souverain primaire. Nous ne voulons pas ces histoires de gouvernement de transition. Le peuple n'en veut pas du tout. Le peuple veut les élections. Toutes les explications qui sont données autour les obstacles, tout, ça, ce n'est pas le problème. Les personnes qui gèrent l'État doivent savoir prévenir et faire face aux obstacles. Les explications ne suffisent pas. Les obstacles, tous les gouvernants rencontrent les obstacles. Mais les obstacles ne peuvent en aucun cas justifier le report des élections. Le peuple cherche les élections. Et il faut donner au peuple les élections. C'est là le sens de ce que dit cet auditeur de tout à l'heure.
Professeur, il y a un autre, c'est Mabela de Kisangani, qui dit que ces résolutions du RASOP sont des mécanismes de pression sur le régime du président Kabila afin d'obtenir l'organisation des élections à la fin de cette année. Cependant, il semble pertinent de s'interroger sur l'efficacité de ces stratégies quand on sait que cette plateforme d'opposition est toujours réactive et non proactive.
Bon, alors là, on sait bien que c'est véritablement un baptême de feu. La personne qui était la plus chevronnée dans l'organisation de ce genre de manifestation, c'était Étienne Tshisekedi. Eh bien, il n'est plus là. Eh bien, il y a toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé qui aujourd'hui reprennent la main et qui lancent des actions d'envergure. Eh bien, donnons-leur le temps de voir comment cela va se passer sur terrain. Mais ce qui est vrai, c'est que en lançant ces actions, ils veulent affirmer que l'opposition existe bel et bien et qu'elle va continuer avec la contestation parce que finalement, ils ne peuvent pas laisser le pouvoir faire tout ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait finalement une opposition. Et je crois qu'à travers ces actions, ils sont là pour... Il y a une autre dimension. C'est qu'en fait, on a constaté depuis un certain temps qu'il y a une très forte pression internationale et un semblant de pression au niveau national. Ils veulent donc que, à la pression internationale qui s'exprime évidemment en termes de sanctions, ceci, de sanctions, cela, qu'il y ait une autre pression nationale, mais qui va prendre d'autres formes. Et ces formes-là, ce sont des formes en termes de manifestations, de journées villes mortes.
Ne va-t-on pas, professeur, tomber dans un cycle de violence comme le craint l'honorable Moïse?
Ça, véritablement, c'est la plus grande conséquence. Quand on connaît le mode opératoire de système sécuritaire qui est en place en RDC, est-ce qu'on va laisser les personnes manifester librement? Est-ce qu'il n'y aura pas d'affrontement avec les forces de l'ordre? Toutes ces questions, il faut se les poser. Mais une autre question, c'est que devant la crise économique du pays, quand il est vrai qu'avec la crise économique, les personnes vivent au jour le jour, alors il y a certaines actions dont on peut se poser la question, si vous voulez, de la pertinence et de l'efficacité. Pourquoi avoir aligné deux journées villes mortes? Pourquoi ne pas aligner une journée ville morte de sorte que le Congolais ait le temps, c'est vrai, de faire une journée ville morte et le lendemain d'aller chercher le pain? Pourquoi avoir mis...
Alors, il y a un problème stratégique.
Il y a là, bon, je n'ai pas participé aux discussions pour savoir pourquoi ils ont aligné des actions et pourquoi il y a telle séquence, mais il y a là véritablement un problème de stratégie dans l'organisation de la contestation.
Merci. Honorable François Mamba, est-ce que vous êtes en ligne?
Je suis en ligne.
Merci beaucoup. Nous allons directement prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Je suis Kilonzo Banebanga, je vous appelle depuis Bukavu, au sud Kivu. Si nous sommes arrivés dans la situation que nous vivons maintenant, c'est en majeure partie la faute au rassemblement. Étant la majeure plateforme de l'opposition est tombée plusieurs fois dans le piège de la majorité. Avant décembre 2016, au lieu d'exiger les élections à tout prix avec les dettes, ils ont accepté volontairement d'aller au dialogue pour se partager les pouvoirs. Après le dialogue, ils ont même été incapables de donner trois noms parmi les membres de leur plateforme. Une politique qui n'a pas marché et qui est parvenue à la division de la plateforme. Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'ils aiment le peuple et exigent la libération des processus électoraux. Le rassemblement doit revoir sa façon de faire la politique, sinon on croirait qu'il joue le jeu de l'AMPI.
Honorable François Mamba, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
Je salue cet auditeur et j'ai dit qu'il fait partie de plusieurs millions de Congolais qui ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce pays était au bord de l'implosion. Nous étions dans les années 1997-98. Nous sommes allés à Sun City pour obtenir l'unité du pays, obtenir la paix, obtenir la stabilité. Et pour obtenir cela, on a fixé une règle pérenne, une règle qui ne dépend pas des Congolais d'aujourd'hui, qui doit pouvoir réguler le Congo, y compris celui de demain. Quelle est cette règle? C'est que pour exercer la fonction présidentielle en République démocratique du Congo, il faut passer par les élections. Les élections sont donc un élément fondateur de ces éléments que je venais d'indiquer tout à l'heure. Deuxièmement, lorsque on est élu président de la République, c'est 5 ans minimum, 10 ans maximum. Quoi que tu aies fait, populaire, que tu aies transformé le Congo en États-Unis et tout ça, au bout des 10 ans, stop, quelqu'un d'autre prend. Et donc à partir de ce moment-là, nous avons une respiration démocratique qui permet d'éviter les guerres, qui permet toutes choses donc qu'on appelle instabilité et qui permet donc aux partis politiques avec leurs programmes et tout ça, etc., de pouvoir faire valoir des choses qu'ils ont le temps de mettre en œuvre dans la paix. Il y a une seule personne sur 80 millions qui a refusé, étant arrivé au bout de la 10e année de l'exercice de la fonction présidentielle, de céder ce fauteuil au souverain primaire. C'est le président Joseph Kabila. Est-ce que tout le monde comprend cela? Qu'il n'y a pas ici un problème d'opposition, de pas opposition, d'efficacité ou quoi? Qu'on a un problème d'un compatriote, d'un autre, un Congolais qui dit « Cette règle, je ne la veux pas pour moi. Il faut qu'on la change pour que je puisse continuer à rester là où on est. » Voilà la nature de la crise. Alors, comment vous faites? Vous reprenez les armes? Étienne Tshisekedi a organisé les choses de manière justement à ce que, par des pressions politiques et par des pressions diplomatiques, nous puissions arriver à faire entendre raison au président de la République. C'est ça le sens du dialogue. Le dialogue n'a pas pour objectif de se partager le pouvoir. On arrête un peu de dire ce genre de choses.
Honorable François Mamba. Bon,
maintenant, non, mais c'est important, je n'ai pas parlé, j'ai entendu beaucoup de choses depuis 5 minutes. Laissez-moi simplement terminer là-dessus pour indiquer que, pour aller aux élections, il n'y a pas à claquer du doigt. Il faut un certain nombre de fondamentaux. On a donné cette tâche dans notre pays à la CENI. Mais la CENI a besoin de quoi? La CENI a besoin de l'argent. Qui gère l'argent du trésor en République démocratique du Congo? C'est le chef de gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Il s'est emparé de ce rôle, il le fait, mais la constitution est très claire, celui qui gère, c'est le premier ministre. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut pour aller aux élections? Il faut une CENI impartiale, qui fait réellement son travail. Voilà pourquoi, quand nous sommes allés à ce dialogue, que certains veulent vilipender, il a été dit que la gestion du trésor doit aller à l'opposition. On a dit que la CENI doit être en quelque sorte pris en charge par une structure qu'on appelle donc CNSA. Et on a dit aussi que il s'agit pas de s'installer ou d'installer ce qu'on appelle une transition. Il s'agit maintenant de se poser la bonne question de combien de temps on a besoin, compte tenu du mal qui a été fait au processus, puisqu'on l'a bloqué, et combien de temps on a dit 12 mois. Donc, ça doit se terminer le 31 décembre 2017. Voilà donc l'ensemble d'éléments qui fondent ce que nous venons de faire. Nous voulons que ces trois choses soient remises sur la table. C'est ce que nous appelons l'application entière et complète de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il n'y a pas ici une démarche pour une transition quelconque. Le délai est connu. C'est le 31 décembre 2017, et bon, ça va se faire, je veux dire, facilement, si le président de la République change sa vision et sa posture par rapport à la position qu'il occupe, ça se fera par des pressions populaires et pas des pressions diplomatiques. Si les choses s'est passé autrement, voilà les éléments, je veux dire, de base, basique. Le reste, effectivement, quel type de pression, pourquoi ville morte un jour ou deux jours, on peut en discuter.
Honorable.
Il y a ici une démarche pour remettre le souverain primaire à sa place, et je salue le professeur qui a beaucoup insisté sur cet aspect-là de choses.
Alors, vous avez parlé de pression populaire notamment. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on tombe dans un cycle de violence qui soit difficile à maîtriser?
Si ça devait être le cas, la bonne question, c'est que qui en serait tenu responsable? Je répète, nous avons une constitution quand même dans ce pays. Cette constitution est quand même très claire. 5 ans minimum, 10 ans maximum. Qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir de violence, donc on ne fait rien.
Alors,
je répète que ici, c'est une question de responsabilité. On n'a pas le droit de laisser ce pays aller à volo, hein, ou devenir une république bananière. Il s'agit ici de faire en sorte que le pacte républicain qui a été scellé à Sun City et qui nous a donné de la perspective et qui peut nous permettre de nous développer, tout ça, etc., soit respecté. Il y a un prix à payer pour cela. Eh bien, allons-y. Voyons jusqu'où tout cela va aller. Mais en termes de responsabilité, je répète, si nous en sommes là, parce qu'il y a un Congolais sur 80 millions qui ne veut pas quitter le fauteuil présidentiel, ce fauteuil appartient quand même au peuple.
Merci, honorable. Il nous reste au moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Honorable Dieudonné Moïse, vous avez suivi l'honorable François Mwamba qui pense qu'il y aura une série d'actions, de pressions en interne comme en externe pour que les élections soient organisées et que le corps électoral soit convoqué d'ici le 30 septembre.
Non, je crois qu'il faut dire les choses clairement. Il s'agit d'une série d'actions qui sont proposées, projeté par le Rassemblement Limité, et dans le sens de pouvoir assouvir son mécontentement simplement. Et que ce que nous allons vivre, c'est réellement, c'est de la violence, puisque nous connaissons chez nous comment les manifestations se font. Aujourd'hui, si j'entends parler du gouvernement de transition, la MP n'a pas voulu qu'on aille à un gouvernement de transition à tout prix. Non, c'est le Rassemblement qui nous a poussé à cette logique de
torpiller l'accord.
Non, l'accord n'a pas été torpillé, tout s'est passé normalement, sauf que nous avons un problème de gestion des ambitions des individus qui sont aujourd'hui dans ce rassemblement limité, radicalisé. Donc c'est cela simplement le problème. Aujourd'hui, lorsque l'on parle des actions à mener, nous devons savoir que c'est un danger pour la République et nous ne devons pas embraser le pays puisqu'il y a des intérêts des individus qui n'ont pas été satisfaits. Aujourd'hui, on va demander aux gens de ne pas payer les factures de la régie des eaux et de la SNEL. La conséquence, c'est que les deux sociétés vont procéder à des coupures et demain elles vont fermer leurs portes. On va demander aux gens de ne pas payer leurs impôts contrairement à l'article 76 de la Constitution et leurs taxes, la DGI et d'autres institutions vont fermer leurs activités et demain ça sera difficile
et
avec notre tissu qui est déjà, le tissu économique qui est déjà malade. Je pense que nous sommes dans la logique où il faut aller aux élections. Le 31 décembre, c'est vrai, c'est une date qui est dans l'accord, mais il n'y a pas simplement le 31 décembre. Il y a un deuxième alinéa qui dit que le CENSA, le gouvernement, avec la CENI, ont la possibilité de pouvoir envisager une autre possibilité d'aller au-delà. Donc, il y a une vie pour les Congolais au-delà du 31 décembre.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, il y a cette pression sociopolitique, socio-économique qui prend de l'ampleur. Il y a des grèves qui sont annoncées à gauche et à droite, chez les médecins, les professeurs, les magistrats. Est-ce que le pire qu'on craint ne pourrait-il pas venir de là?
Alors, très très bonne question. Le tableau que présente le pays aujourd'hui est très 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 sombre. Et j'espère que ce ne sont pas nos amis de la majorité qui vont le démentir. Et quand vous regardez aujourd'hui la situation politique, vous vous dites, est-ce qu'il ne faut pas donner raison à Pierre Engelbert qui, regardant la manière dont l'État congolais est géré, a carrément écrit
le Congo, conclusion.
Le Congo ne va nulle part.
Merci, professeur. Honorable François Mwamba, votre conclusion, comment entrevoir la suite du processus politique après ce conclave du RASOP, en un mot?
Bon, d'abord, il faut que nos intellectuels, les gens qui ont été à l'école dans ce pays, arrêtent de manipuler les choses, arrêtent le mensonge. Il n'y a pas de deuxième alinéa quelque part dans l'accord qui dispose qu'on peut aller au-delà. La seule chose qu'on a dite, puisque nous avons regroupé les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, on a dit qu'on va évaluer et voir dans quelle mesure on peut découpler. C'est tout.
Merci.
Parce que le reste, c'est du mensonge.
Merci, honorable François Mwamba. Vous avez accepté qu'on vous prenne à pied levé. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci au professeur Félicien Kabamba et à Dieudonné Moïse. Cette émission est terminée. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.